Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Fin du suspense. Un suspense déjà très éventé. À part ses adversaires à la présidence de l'UMP, tout le monde estime que Nicolas Sarkozy sera ce soir élu président de l'UMP. Lors de son quinquennat, Nicolas Sarkozy nous avait habitués à un principe, un événement par jour pour occuper l'espace médiatique et un événement pour chasser le précédent en cas de polémique. Alors peut-être attendions-nous, nous journalistes et commentateurs politiques, avec un peu trop de gourmandise, le retour de Nicolas Sarkozy? Y a-t-il un effet de déjà-vu? Nicolas Sarkozy est-il toujours le meilleur ennemi de la presse pour certains journaux et médias? Les rapports ne sont pas toujours simples entre Nicolas Sarkozy et les médias. Il adore prendre les journalistes pour cible. Pour en parler ce matin dans le secret des sources sur France Culture, en studio avec nous, Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro.
Bonjour.
Et sur Radio Classique. Bonjour Guillaume Tabar. Nathalie Schuch, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France.
Bonjour.
Bonjour, on vous entend également sur France Inter le lundi matin et vous publiez avec Frédéric Gerchel un livre dont on a déjà beaucoup parlé. Ça reste entre nous, hein, 2 ans de confidence de Nicolas Sarkozy chez Flammarion Documents. Avec nous également Alain Auffray, journaliste politique au journal Libération. Et je suis sûr que l'on peut encore trouver votre livre, Les loups et les chiens, la droite sous Sarkozy aux éditions du Moment. Bonjour Alain Auffray.
Bonjour.
Nos deux experts de l'émission, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henneton pour les images et le multimédia. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes en régie Léa Le Foll. Le clin d'œil en fin d'émission de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Voici une question modérée qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme.
Je suis tout à fait prêt. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser. Mais est-ce que vous me prêtez 2 neurones dans ma tête? Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence?
C'est moi qui ai inventé la Ve République? Mais M. Geoffrin, c'est une obsession. Le pouvoir personnel, vous en parliez déjà à propos du général de Gaulle. C'est du recyclage, M. Geoffrin.
Enfin, il y a au moins 5 questions dans votre question. Donc,
bah écoutez,
donc
en tout cas,
choisissez, j'y répondrai bien volontiers. Alors, j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite.
Je ne comprends pas cette question. Excusez-moi. Si quelqu'un veut me poser une question que je comprenne, j'y répondrai bien volontiers. Je ne comprends pas votre question.
Je reconnais bien là l'obsession de Mediapart sur ma personne, sur mon patrimoine, plutôt que sur mes idées.
Est-ce que vous êtes tellement drogué à l'actualité quotidienne que vous avez perdu toute mémoire?
Bon, je crois qu'il est temps que j'abrège cette conférence de presse, car ça devient très dangereux. Bon week-end à vous, merci.
Je ne comprends pas votre question, c'est terrible, en pleine conférence de presse, montage réalisé par Vincent Abouchard. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sarco-bashing, mais l'ancien président nous l'a bien rendu, comme on vient de l'entendre dans ses extraits tirés d'interviews et d'interventions qu'il a donné et prononcé lors de ces dernières années. Alors j'ai posé la même question à nos 3 invités. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a manqué? Est-ce qu'il a manqué aux journalistes politiques que vous êtes pendant les 30 mois hein, environ où il était en retrait de la vie politique? On va commencer avec vous, Guillaume Tabar.
Déjà pour manquer, encore eût-il fallu qu'il soit absent. Or, on n'a pas le sentiment qu'il l'ait été, en tout cas qu'il l'ait été très, très longtemps. Je crois que dès l'été 2012... il y a eu les premières covers de News Magazine sur Sarkozy. Voilà, au moment où François Hollande, amorçant son déclin, il y avait une part de nostalgie, comme toujours. Hein. Il y a toujours l'effet contraste entre ce qu'on a connu et ce qu'on connaît. Bon. Ce qui a changé, c'est que d'abord, la présence de Sarkozy dans les médias s'est d'abord imposée par des articles, par nos articles, avant même que lui s'exprime. Et il s'exprimait de manière très, très progressive. D'abord en voyant au compte-gouttes et de manière très, très limitée un certain nombre de journalistes qui donnaient quelques papiers un peu nourris. Puis par une tribune, enfin une réaction sur la Syrie de l'été 2012, puis une tribune sur l'Europe, puis la réaction aux affaires, à l'affaire Bettencourt, etc. Il y a eu un retour progressif, mais il n'y a pas eu finalement un grand temps de silence, et puis d'un seul coup, un retour spectaculaire. Il y a eu une montée en puissance de son retour.
Mais pas de manque.
Il n'y a pas le temps qui est.
Mais par exemple, au Figaro, ouais. Vous n'êtes pas dit, oh là là, il va revenir, il est en train de revenir, il se déclare candidat à la présidence du LMP, il va falloir qu'on renforce notre service politique, tellement il va y avoir d'actualité avec Nicolas Sarkozy.
Écoutez, non, d'abord notre service politique était déjà fort. Donc, et la droite a une vie sans Nicolas Sarkozy, il y aura peut-être une vie après Nicolas Sarkozy aussi. Voilà, il y a d'autres acteurs dans la vie politique, y compris à droite. Voilà, après, ce qui change, c'est le jeu des vases communicants. Il y a une période, on a beaucoup parlé de François Fillon, beaucoup parlé de Jean-François Copé. Aujourd'hui, on parle un peu moins de ces deux-là et on parle plus d'Alain Juppé, qui lui aussi a manqué à la presse d'une certaine manière, et de Nicolas Sarkozy.
Alain Auffray, il vous a manqué Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous êtes dit chic, ça y est, il revient, on va avoir plein d'histoires à raconter.
Ce qu'on ne peut pas contester, c'est que son retour donne une intensité nouvelle à notre activité. Ça, c'est vrai, et peut-être aussi un appétit plus fort. Mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Tabar, c'est-à-dire que 2012, on est déjà dans la chronique d'une, moi pour ma part en tout cas, dans la chronique d'une fiction, d'une fausse retraite. Hein. Ça a d'ailleurs plus ou moins bien fonctionné pendant toute une période, parce que il était fait mention du fait qu'il voyait un certain nombre de gens pour leur dire des choses, et d'une certaine manière, ça lui a servi, puisqu'on a un peu quand même servi la légende d'un Sarkozy retiré, spectateur, effaré des querelles entre Jean-François Copé et François Fillon, alors qu'on sait qu'il a un rôle, si n'est déterminant, du moins très important dans ce qui s'est passé pendant cette période. Donc voilà, on n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps vraiment de nous manquer, je répondrai.
Nathalie Chuc, alors vous, pendant ces 30 mois de retraite, on va dire ça comme ça. Vous l'avez vu plusieurs fois. Et vous parlez dans votre livre de Sarko-nostalgie quand même, notamment d'un sketch qui a beaucoup plu.
Absolument.
À l'UMP.
J'allais vous en parler.
Eh bien, allez-y, Nathalie Chuc.
Et c'est vrai que pour revenir sur votre question, je pense que dans les premières semaines qui ont suivi la défaite de Nicolas Sarkozy, on ne va pas se mentir, les médias se sont peut-être dit, mince, peut-être qu'on a cassé notre jouet, peut-être que les Français ont cassé notre jouet favori, parce que Nicolas Sarkozy, ça reste quand même un objet médiatique, politique, hors du commun. Voilà, pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a fait vendre, vous mettiez Sarkozy à la une, ça faisait vendre, on ne va pas se mentir. Et rapidement, les Guignols en avaient fait un sketch qui avait beaucoup amusé l'équipe de Sarkozy. On voyait donc la marionnette de Sarkozy, cigare au bec, dans un jacuzzi, tranquille, et les marionnettes de Pujadas, de Claire Chazal, etc., disant « Mais vite, il faut qu'on organise un complot, il faut qu'on rappelle Sarkozy, nos audiences sont pourries, il faut tout qu'on fasse. » Et toute la petite équipe au 77 rue de Miroménil se regardait ça avec une espèce de sourire sur les lèvres en se disant « Bah, y a de la Sarko-nostalgie. »
Est-ce que pendant les entretiens que vous avez eus avec Nicolas Sarkozy durant ces 30 mois pour écrire ce livre avec Frédéric Gerchel, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a bien accueilli? Est-ce qu'il vous a parfois rembarré comme il a pu le faire durant la campagne avec certains journalistes? Est-ce que ça s'est bien passé, les entretiens avec lui?
En face à face, Nicolas Sarkozy, c'est un hôte extrêmement courtois. C'est-à-dire quand il vous accueille, on raconte d'ailleurs une scène, la première fois qu'on le rencontre, on attend dans le petit salon d'attente qui jouxte son bureau, il arrive, il ouvre la porte et il nous dit « Mais rentrez, faites comme chez vous, installez-vous sur les petits canapés, est-ce que vous voulez un café ?» Il me dit ça fait extrêmement plaisir de vous voir, c'est en souvenir du bon vieux temps, alors que Dieu sait pourtant qu'on a eu des accrochages. Non, extrêmement courtois, toujours dans le face-à-face. Après, Nicolas Sarkozy, il s'en prend aux journalistes quand il est devant, je dirais, une foule de gens en public, parce qu'il aime bien, c'est un petit peu donner du sang à la foule, il aime bien s'en prendre aux commentateurs, aux experts, quand il a un public, et il sait très bien que c'est populaire de s'en prendre aux journalistes.
Il s'en prend jamais au Figaro, Guillaume Tabar, Nicolas Sarkozy.
Pour Nicolas Sarkozy,
vous êtes les seuls à avoir eu son interview cette semaine dans le Figaro.
Ça, c'est un choix, j'allais dire, tactique de sa part. Je veux dire que Nicolas Sarkozy, dans une campagne où il doit séduire les militants de droite, il s'adresse au quotidien où il va trouver le plus de gens qui partagent ses idées. Ça, c'est de la tactique politique. Je veux dire que, tout comme Alain Juppé fait des inrecuptibles en ce moment parce que ça lui permet aussi de changer un peu son profil, Nicolas Sarkozy, il revient à ses fondamentaux. Mais ça, il ne faut pas y voir la marque de relations privilégiées entre un politique et un journal. Vous savez, c'est toujours très trompeur de croire que sous prétexte qu'il y a une proximité idéologique globale, ça crée une dépendance, etc. Je pense que le Figaro n'est pas plus sarkozyste que le Monde n'est hollandolâtre en ce moment. Je pense que c'est plus compliqué que ça.
Alors, Nicolas Sarkozy et les journalistes, on écoute un petit extrait.
Nicolas Sarkozy qui a pris la parole il y a quelques minutes et qui jette ses dernières forces dans la bataille. Il a choisi la Vendée, une terre ancienne.
Si notre ami qui fait un direct en me tournant le dos pouvait bien s'arrêter, ça m'arrangerait.
Voilà, pas simple. Nous sommes en mai 2012, dernier jour de campagne présidentielle. Et Nicolas Sarkozy, en meeting au Sable d'Olonne, s'en prend au journaliste Philippe Morand, en direct dans le journal de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Bref, là, on voit qu'il n'y a pas qu'Alain Juppé qui est hué lors des meetings. Mais il n'y a pas eu que cet incident. Deux jours avant, toujours en mai 2012, deux journalistes de BFM Télé, Ruth Elkrief et Thierry Arnaud, alors là, eux, ils sont pris à partie et agressés par des militants UMP lors d'un meeting à Toulon. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Onfray? Est-ce que dans ce cas-là, il faut continuer à couvrir une campagne? Parce qu'il n'y a pas que Sarkozy, Mélenchon aussi, hein, durant la campagne, s'en est pris aux journalistes.
Bon, oui, certainement, il faut continuer. Ça s'est produit d'ailleurs aussi à Bordeaux, avec notre collègue Nicolas Domenach qui a été sifflé par la foule. Ça fait partie des figures obligées des meetings de Sarkozy, que de dire qu'il a le système contre lui. Moi, mes contacts dans son entourage me disent ça très régulièrement au téléphone. Ils me disent que ce n'est pas la peine de te parler, de toute façon, puisque au final, c'est toujours négatif, etc. Et le système est contre nous. Bon, ça, pour répondre à la question, je pense qu'il n'y a pas lieu de quitter la salle. Ni quoi que ce soit. Et je pense de toute façon qu'il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans, parce qu'en vérité, les médias et les journalistes ne sont pas si négatifs avec Nicolas Sarkozy. Moi, je ferai remarquer, par exemple, que là, encore une fois, la légende d'un Sarkozy retiré, qui tel le général de Gaulle, regarderait le spectacle de la France et de sa famille politique se décomposant et disant « je vais devoir revenir », eh bien, un certain nombre de mes collègues ont repris cette phrase sérieusement, comme si ça pouvait vraiment être pensé. Voilà. Donc, il peut les remercier quand même.
Est-ce que vous le rencontrez souvent, Nicolas Sarkozy, Alain Onfray?
Non, très rarement.
Pourquoi ça, vous le suivez?
Très rarement, parce que, écoutez, pour tout vous dire, c'est prévu. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était rue de Miroménil. On a parlé rapidement, mais très rapidement, de la primaire. C'était un sujet qui m'intéressait. D'ailleurs, je ne comprenais pas trop pourquoi je m'intéressais tellement à ce sujet. Il m'a dit que c'était une question tellement compliquée qu'il ne pouvait pas me répondre comme ça, à brûle-pourpoint, et que ça méritait un rendez-vous qui n'a toujours pas été fixé. Voilà, mais ça viendra sûrement.
Il est accessible, Guillaume Tabar, Nicolas Sarkozy, pour vous?
Oui, pareil, moi je l'ai rencontré à un certain nombre de reprises pendant cette période dite de traversée du désert, et c'est vrai que c'est...
Mais là, vous échangez des mails, des SMS, comment ça se passe?
Non, c'est à la suite d'échanges qui aboutissent à un rendez-vous qui nous est proposé rue de Miroménil, et voilà, et après, Nathalie décrit très bien l'ambiance, le climat, c'est vrai qu'un Nicolas Sarkozy très, très cordial. Nathalie aurait pu ajouter l'épisode de la boîte de chocolat. Nicolas Sarkozy a toujours une boîte de chocolat et en propose. Ça, c'est un des côtés sympathiques.
On n'a pas eu
le chocolat. J'avais du tout mangé.
Alors, il y a les journalistes qui ont les chocolats et bon. Les autres.
Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy a toujours joué de la qualité personnelle de la relation avec les journalistes pour créer ce climat. Alors, bien sûr, de manière intéressée, lorsqu'un politique se montre agréable, courtois envers un journaliste, on peut dire que ça dispose le journaliste mieux qu'un politique qui va l'agresser, l'insulter, etc. Et ce que disait Nathalie était très juste sur la distinction que fait Nicolas Sarkozy entre une attitude personnelle et puis une attitude publique de journaliste bashing. Bon.
Alors, Nathalie Schuch, pourquoi, selon vous, Nicolas Sarkozy a accepté de vous recevoir et de se livrer? Nous, on comprend bien l'intérêt qu'on a à lire ce livre, qui est très instructif, on apprend plein de choses, on comprend bien l'intérêt que vous avez à l'écrire avec Frédéric Gerchel, mais quel est l'intérêt pour Nicolas Sarkozy de voir publier toutes ces vacheries qu'il donne sur les uns sur les autres, qu'il délivre sur les uns sur les autres?
L'intérêt pour lui de recevoir des journalistes, déjà, il est très simple. C'est qu'il sait très bien, depuis sa défaite, comme on l'a dit, la traversée du désert a été très courte, il a très rapidement décidé de revenir et son horizon, c'était plutôt 2015. Donc, revoir des journalistes, après les avoir tant détestés, parce qu'il a eu une vraie détestation pour les journalistes qu'il considérait comme complices de la gauche, considérait que les journalistes avaient fait élire François Hollande en passant certains traits de sa personnalité sous silence. Donc il s'est dit à un moment, si je veux revenir, eh ben, il faut que j'entretienne, entre guillemets, mon petit cheptel. C'est-à-dire les journalistes qui m'ont suivi pendant des années, que je connais, pas forcément que j'apprécie, qui m'ont fait des vacheries aussi, mais c'est eux qui sont accrédités sur la droite, donc je vais continuer à les voir. J'entretiens mon réseau, y compris journalistique. Alors au début, pour lui, ça a été assez difficile de le faire, parce qu'il y avait, comme je vous le dis, une espèce de rapport d'amour vache avec les journalistes. C'est vraiment ça. Mais il s'est dit qu'il avait un intérêt objectif à le faire pour faire passer des messages. Parce que comme il ne pouvait pas communiquer directement, il utilisait les journalistes en espérant que ça sortirait comme il le souhaitait. Ce n'est pas toujours le cas.
Les confidences qu'il vous fait, il sait que vous allez les utiliser, forcément.
Il savait qu'on faisait un livre, absolument. Il nous en a même parlé, deuxième rendez-vous, on le voit le 7 avril 2014. On déjeune avec lui, parce qu'il nous avait invités à déjeuner dans le petit salon, salle à manger de rue de Miromesnil. Donc on n'avait pas eu droit au chocolat, mais à d'autres mets tout à fait délicieux. Il savait, donc il nous parle à la fin de ce déjeuner. Il nous dit, j'imagine que je vais retrouver tout ça dans votre livre. Donc il est tout à fait lucide. Et après, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit publier ou pas ce qu'il nous a dit ? Et on s'est rendu compte, en débriefant les gens qui passaient dans son bureau, qui disaient 17 fois la même chose à 17 personnes différentes et les mêmes choses que ce qu'il nous avait dit 2 jours plus tôt, 3 jours plus tôt, 5 jours plus tôt. Donc on s'est dit, est-ce qu'on est hypocrite et on fait du propos rapporté, ou alors est-ce qu'on écrit vraiment ce qu'il nous a dit, les propos qui sont à charge, à décharge, dans les deux sens, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont à son crédit. On a préféré faire les choses à visage découvert.
Ça pose la question du on, du off. Le off n'existe plus en politique.
Si, le off existe toujours en politique. Après, ça dépend. Enfin, le off, c'est sous réserve que vous ne répétiez pas la même chose à 20 personnes différentes. C'est-à-dire que là, ça devient une conférence de presse quasiment. C'est très différent.
Alain Auffray, le on, le off en politique.
Alors, on pourrait peut-être comparer plus précisément des événements récents. Alors, il y a eu le livre de Nathalie, en effet, et puis le livre de David et l'homme, mais ce sont des problèmes très particuliers. Je ne peux pas, à mon avis, généraliser. Le off, il existe toujours, enfin en tout cas dans ma pratique à moi, il existe toujours, il est absolument nécessaire, parce que ce que j'appelle le off, hein, moi, c'est des gens qui, me faisant confiance, savent que tel ou tel éclairage sur des questions de personnes, parce qu'en vérité, quand on parle de politique, il y a naturellement des idées, et puis il y a le grand théâtre de la conquête du pouvoir et des rivalités au sein d'une famille politique. C'est pour être franc, 80% des discussions qui nous animent. Et lorsqu'on est sur ce terrain-là, nécessairement, on finit par dire des choses qui n'ont pas vocation à être apportées, non pas parce que on veut protéger la personne, mais parce que ça nous est livré pour qu'une certaine vérité éclate d'une certaine manière, hein, sans employer de grands mots.
Fabrice Lorvaux, donc, avocat spécialiste du droit des médias. Cette question du on et du off vous passionne. Alors comment on traite le off d'un point de vue judiciaire ?
Le off, bon, il y a un problème de définition et de périmètre. Hein. Le off, ça peut prendre des tas de désignations. Moi, j'en ai noté quelques-unes. On parle du off, du hard off, du demi-off, du soft off, du vrai off. Même le code de déontologie des journalistes le décline en « vous ne pouvez pas diffuser, vous pouvez diffuser si quelqu'un d'autre le confirme ». Enfin, voilà. Donc on a un périmètre qui est quand même assez large, et lorsqu'on se retrouve dans les tribunaux, c'est parce qu'en fait ce pacte qui est passé entre le journaliste et l'homme politique n'a pas été respecté. Lorsqu'on se retrouve dans un tribunal, c'est rarement parce que la source va poursuivre le journaliste. Moi, j'ai personnellement pas trouvé de décision publiée, mais c'est souvent parce que le propos qui a été rapporté met en cause une tierce personne qui, elle, se considère comme diffamée et va engager une action judiciaire. Et dans ces cas-là, la source, eh bien, elle est aussi complice de la diffamation. Et donc, ce sont dans ces conditions que les tribunaux vont devoir connaître du off et quelque part du non-respect du pacte. Alors, pour les tribunaux, c'est assez simple. Ils partent du principe que lorsque vous parlez à un journaliste, eh bien, vous acceptez que l'information que vous donnez va être publiée et que votre identité soit révélée. Ce principe a des exceptions. D'abord, lorsque vous ne savez pas que la personne qui est en face de vous est un journaliste. Donc là, on ne peut pas déceler l'intention de voir publier. Il y a une autre exception, lorsque vous, en tant que source, vous mettez des conditions préalables à la publication. Je veux relire, je veux valider. Et il y a effectivement ce troisième cas du off, mais qui ne concerne qu'un cas particulier, c'est-à-dire la source va donner une information, mais pour expliquer un contexte, et ne va pas donner l'autorisation de la publier. Et c'est pour ça qu'on peut distinguer cette information qui ne peut pas être publiée du secret des sources, où on va donner une information pour qu'elle soit publiée, mais là, bien sûr, de manière complètement anonyme. Et les tribunaux considèrent que lorsque la source, lorsqu'il est prévu qu'elle n'a ni voulu ni permis la publication incriminée, eh bien, dans ces cas-là, on ne peut pas engager sa responsabilité. Alors, la juridiction considérait que les propos, la formule était un peu complexe, les propos avaient été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel. Alors ça, c'était en 2007, ça a été simplifié en 2014, où la Cour de cassation a dit « ne sont punissables que les propos tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ». Voilà. Donc ça, c'est la manière dont les tribunaux vont gérer l'offre. Après, tout est une question de preuve, et notamment de savoir dans quel était le pacte initial. Et ça, c'est souvent la difficulté.
Alors ça, c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan du travail journalistique au quotidien, quand on rencontre des gens, alors on vous dit « ça reste entre nous hein », ça c'est vrai. On vous dit aussi, certains vous disent « c'est off », d'autres encore disent « c'est triple off ». Il y a une échelle du off, Alain Auffray, Nathalie Chu, Guillaume Tabar.
Je crois aussi au principe du off pour une raison simple. C'est que, et c'est vrai dans la relation avec le politique, mais c'est vrai dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient, on ne parle pas de la même manière lorsqu'on est en privé ou lorsqu'on est en public. Lorsqu'on est, on parle de manière construite, délibérée, etc. Ou lorsqu'on parle de manière plus relâchée. Et parfois, il y a un côté un peu faussé de retrouver transcrit, et dès que quelque chose est écrit, ça prend une dimension quasi officielle, des propos qui, dit dans un contexte parfois de plaisanterie ou de légèreté, etc., n'a pas la même valeur. Et donc voilà, je crois qu'il y a cette torsion qui est parfois un peu dangereuse. Bon. Ensuite, sur les règles, effectivement, là où il y a une part d'hypocrisie des politiques, c'est que pour beaucoup, le off, ce qu'ils appellent off, c'est effectivement une manière de faire sortir des phrases, mais en s'abritant derrière l'anonymat. Bon, donc le off, il y a une part d'hypocrisie. Moi, je pense qu'en la matière, moins il y a de règles, mieux c'est. C'est-à-dire que le propre du travail journalistique, c'est de créer cette relation de confiance, je ne pas au sens de connivence, mais au sens de comprendre son interlocuteur. Son interlocuteur sait aussi à qui il parle. Au bout d'un moment, les politiques nous connaissent, savent à qui ils s'adressent. Bon, et moi, jamais je dis, bon, alors, telle phrase, est-ce que ça, c'est bien off? Bon, on se fait confiance, c'est-à-dire qu'on est entre gens qui savent travailler de part et d'autre. Et après, on assume sa responsabilité. Parfois, on dit, bon, tiens, ça, je sais que c'est un peu délicat, mais j'y vais quand même. Voilà, mais je pense que si on agit de manière responsable, il n'y a pas de danger et on peut être au plus proche de la vérité de ce que dit quelqu'un.
Allez,
on
ferait Nazichuk.
Je voulais juste dire une chose. Je crois que le livre politique pousse au crime un petit peu sur la question du off. C'est-à-dire qu'il y a, ça n'a pas été dit, mais ça ne vise pas le livre de Nathalie. Ça vise plus l'autre dont on a beaucoup parlé, celui de nos collègues du Monde.
Gérard Davé et Fabrice Lhomme.
Oui, parce que le livre politique, il a vocation à se vendre longtemps. Et il arrive que des offs de livres politiques, je crois que tout le monde pourra le confirmer ici, ils n'auraient jamais été publiés tels quels dans un journal. Notamment le fameux déjeuner Fillon-Jouyé. S'il avait dû être publié dans Le Monde...
Il a été le week-end.
Oui, non, mais c'est que s'il avait dû être publié dans le journal Le Monde, François Fillon aurait été appelé et on lui aurait dit, voilà, nous on a cette version de ce déjeuner. Qu'est-ce que vous dites? Pour le livre, ce n'est pas le cas, à cause de cette... Je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, hein, à cause de cet impératif commercial. Le journal, on le vend, on a nos lecteurs et puis c'est fini le lendemain. Le livre, il faut que ça tienne longtemps. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'amène à dire que le livre politique peut être un petit poison.
Je suis tout à fait d'accord, parce que dans le cas de Nicolas Sarkozy, si vous prenez certaines des petites phrases qu'on rapporte dans notre livre, il y en a beaucoup qui étaient déjà sorties en fait. La une du Point sur François Hollande finira avec du goudron et des plumes, moi je n'ai pas eu de sang sur les mains, beaucoup de choses qu'il avait déjà dites en fait. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il le disait à plein d'élus. Et que font les élus quand ils sortent du bureau de Nicolas Sarkozy? Ben, ils décrochent leur téléphone, ils appellent les journalistes pour dire « Tiens, dis donc, Sarkozy m'a dit une sacrée vacherie sur telle ou telle personne ». Donc, on avait déjà lu beaucoup de ces choses. Donc, ce qui fait la différence, je trouve, avec un livre, c'est que vous avez un effet de masse de petites phrases qui font que vraiment on a l'impression que tout ça est ramassé en une courte séquence de temps et sur 260 pages, 300, ça dépend de si vous êtes un auteur plus prolixe ou pas. Donc je ne suis pas d'accord sur le côté pouce au crime.
Alain Auffray, dans votre article dans Libération d'hier, le bonimenteur, vous utilisez une phrase qui a été prononcée en 2007, prêtée, oui, elle est géniale.
Yasmina Reza.
Voilà, elle est...
Oui, elle est absolument
elle
formidable.
Elle est mise en valeur, mais elle est vieille
on
aussi.
Peut la, on peut la redire, là
Allez-y, vous lisez.
Quand Nicolas Sarkozy dit « j'ai beaucoup réfléchi », c'est qu'il vient juste d'y penser, c'est qu'il n'y a jamais pensé. Et je la cite parce qu'elle est d'abord magnifique. Et puis qu'en plus, il se trouve que dans cette campagne-là, il a passé son temps à dire qu'il avait beaucoup réfléchi.
Le journal Le Monde révèle que Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été mis sur écoute dans le cadre de cette information judiciaire. Les écoutes analysées par les enquêteurs révèlent finalement une autre affaire. Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation, aurait renseigné Nicolas Sarkozy sur l'affaire Bettencourt et l'affaire Tapie.
Alors avant de reprendre notre débat, je me tourne vers Thibaut Henneton pour les réseaux sociaux. Vous avez noté une coïncidence, Thibaut, entre le retour de Nicolas Sarkozy et une grève des sociétés qui gèrent pour le compte du ministère de la Justice, ouais. Les écoutes de toutes sortes et notamment téléphoniques.
Oui, Nicolas Sarkozy, Bismuth, le champion des écoutes, qu'il les ait commandées ou subies, revient. Et figurez-vous qu'au même moment, l'actualité, donc a le sens de l'ironie. Les entreprises privées qui assurent pour le compte du ministère de la Justice les écoutes judiciaires ont brutalement cessé de le faire mardi. Actuellement, plusieurs entreprises assurent en effet sur réquisition judiciaire les écoutes, qu'il s'agisse de mails, de coups de fil, de SMS ou de géolocalisation. Les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs téléphoniques leur transmettent les données exigées par la justice et ces entreprises, qui s'appellent Electron ou Fortec, les récupèrent dans des centres d'interception avant de les transmettre à la police. Sauf que ces entreprises ne devraient déjà plus le faire depuis plusieurs mois. En avril dernier, la plateforme nationale des interceptions judiciaires, ou PNIJ, aurait dû prendre le relais. Un seul bunker enfoui à 10 mètres sous terre, au lieu des 200 centrales d'interception actuelles et une seule entreprise pour gérer le tout au lieu des 5 ou 6 actuellement. Tout cela est très bien expliqué, schéma à l'appui sur le site de Culture sous le titre « Écoute judiciaire, veuillez patienter ». Avec la PNIJ, on allait à la fois économiser, accélérer et faciliter les procédures. Ou comment rendre la surveillance policière, après feu vert du juge, presque aussi simple qu'une requête sur Google. Le nom de l'entreprise choisie pour construire et administrer cette PNIJ, un fleuron de l'armement français, présent dans les rafales, les drones, la biométrie et j'en passe, Thales.
Sauf qu'en avril, Thibaut Henneton, la PNIJ de Thales n'a pas pris le relais.
Electron, Fortec et autres ont donc, bon gré mal gré, continué à assurer les écoutes judiciaires. Jusqu'au début de la semaine, donc, où elles ont dit stop, marre d'assurer l'intérim de la PNIJ qui ne sera vraisemblablement pas opérationnel avant 2015. Alors tout cela est un peu technique, mais intéressant à bien des égards, parce que ce sujet des écoutes permet d'explorer les arcanes de la surveillance légale à la française, celle des écoutes judiciaires et administratives, tout en commençant à explorer le marché des technologies de surveillance où la France, encore elle, excelle, au point d'avoir exporté il y a peu son savoir-faire en Libye ou en Syrie. Ces histoires sont maintenant relativement connu. Dans ce joyeux monde des marchands de contrôle, on retrouve en bonne place, figurez-vous, un certain Pierre Gattaz avec sa société Radial, oui, l'actuel président du MEDEF, qui fut longtemps président de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, la FIEEC, dont la brochure de novembre 2014 assure qu'elle met les technologies de l'énergie, de l'électronique et du numérique au service du futur.
Bravo Thibaut Henneton avec tous ces sigles. Le secret des sources sur France Culture, Sarkozy et les journalistes avec nos invités Guillaume Tabar du Figaro, Nathalie Chuc du Parisien et Alain Auffray de Libération. Day. Marilyn Manson sur France Culture, extrait de son album qui sortira, son prochain album qui sortira en janvier 2015, The Pale Emperor. Sarkozy et les journalistes.
Parfait, parfait, parfait.
Quand s'il vous plaît, le temps est compté.
Quand on dit qu'il doit être réécrit de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la GPA ou contre la PMA si on n'abroge pas la loi Taubira, puisque la loi Taubira, justement, conduira à cela.
Vous me connaissez, et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule. Nous aurons des primaires ouvertes, et je ferai tout pour que nous les organisions de façon transparente et efficace.
Donc, si Alain Juppé apparaît le mieux placé, vous vous rangerez derrière lui?
Bien sûr, je me mettrai derrière lui.
Ah, vous avez vraiment changé, donc.
Je me mettrai derrière lui.
Et je lui mettrai un coup de pied au cul qui va le propulser sur Pluton pour en faire le premier chauve en orbite, hein? T'as pigé, Darvor? Calmez-vous, je suis calme, puisque j'ai changé. Et le premier journaliste qui fait le mariole en posant des questions de merde sans que j'ai la réponse, il finira au télé-shopping avec Devoise et Marie-Ange Nardi, hein? Hein, c'est ça que tu cherches, hein? Hein?
Nicolas Sarkozy a vraiment changé.
Voilà, alors dans l'ordre, nous avons entendu des extraits. Le premier de l'intervention de Nicolas Sarkozy lors du meeting organisé par Sens Commun le 15 novembre dernier. Vous avez entendu ensuite Alain Juppé, c'était samedi dernier à Bordeaux. Et bien sûr, un extrait des Guignols de l'Info sur Canal+, après les sifflets visant Alain Juppé. Guillaume Tabar, Nathalie Chuc, Alain Auffray, la guerre est déclarée à l'UMP.
Ça va être très compliqué, je pense, pour Nicolas Sarkozy, quand il va reprendre les commandes de l'UMP, d'imposer son autorité, parce qu'il a quand même un certain nombre de rivaux aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'il va réussir, entre guillemets, à mater Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand? Ça va être le challenge des prochaines semaines. Pour lui qui a toujours été habitué à avoir une autorité non discutée sur ses troupes, je pense que ça va être quelque chose d'assez nouveau et de compliqué.
C'est maintenant que ça devient intéressant pour lui. On a l'impression qu'il s'embêtait quand on lisait vos articles, notamment Alain Auffray, durant cette campagne.
Oui, on a repassé tout à l'heure l'extrait de ce qui s'est passé devant Sens Commun, le lobby anti-mariage gay de l'UMP. Moi, ce qui m'a sidéré, lorsque j'ai appelé après un certain nombre de sarkozistes pour les interroger sur cet événement, tous ont bien compris que c'était très mauvais pour lui. Et la plupart me disaient, mais quel est l'imbécile qui a conseillé à Sarkozy d'aller à ce truc devant ses hystériques, etc. C'est ce que me disaient des gens de son équipe, hein. Ils étaient très nombreux. Ce qui est quand même, effectivement, comme vient de dire Nathalie, le signe que c'est... On nous avait vendu De Gaulle, c'est quand même pas tout à fait ça. Et la meilleure preuve, hein, c'est que, même si aujourd'hui, il va être de bon ton de dire que ce sont des notables, etc., un nombre très important même de parlementaires que... On pouvait croire acquis à Nicolas Sarkozy. On fait le choix de suivre notamment Bruno Le Maire. Et personne, il y a 2 mois ou il y a 3 mois autour de cette table, aurait imaginé, je pense, que près de 60 parlementaires seraient derrière le maire à la fin de la campagne.
Oui, mais je pense qu'il y a deux réalités qui s'entrechoquent un peu. La première, c'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy et ses amis avaient fait le pari que l'annonce de son retour suffirait à mettre tout le monde derrière lui et que, comme un rouleau compresseur, plus rien ne pourrait l'arrêter, que même les autres seraient peut-être même dissuadés d'aller contre lui. Ça ne s'est à l'évidence pas passé comme ça. Mais en même temps, ou plus exactement dans un deuxième temps, s'il est élu président de l'UMP, il y a fort à parier quand même que beaucoup de ceux qui, même en off, sont critiques contre lui, bien, seront peut-être un peu plus prudents à l'égard du président de leur parti, surtout qu'il y aura des élections départementales dans la foulée, puis des élections régionales. C'est déjà intéressant de voir dans les ralliements de la pré-campagne des personnalités comme Valérie Pécresse, comme Éric Ciotti, comme François Baroin, qui n'étaient pas pourtant des sarkozistes idolâtres, même deux d'entre eux qui ont soutenu clairement François Fillon jusqu'à présent, qui ont soutenu Sarkozy parce que voilà, une Valérie Pécresse qui doit être chef de file en Île-de-France, un Éric Ciotti qui doit veiller à ses intérêts à Nice et dans la région, en région PACA, ne peut pas se mettre à dos le futur président du parti. Bon, alors la question, c'est est-ce que cette position quasi institutionnelle que Nicolas Sarkozy va avoir va suffire ou non à tuer le match après? Ça, c'est un autre débat.
Oui, mais la grande question, c'est est-ce que l'UMP n'est pas en train de devenir un petit peu comme le Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'il est en train, un ministre Nice me disait il y a quelques jours, le poison des primaires est en train d'entrer dans les veines de la droite. Et est-ce que ce n'est pas ce qui risque de se produire aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy ?
C'est le vrai but de guerre, les primaires ? C'est le vrai but de guerre, les primaires ?
C'est le vrai but de guerre, le contour de la primaire élargi, pas élargi, à tous les sympathisants, seulement aux militants, etc. etc. Mais c'est cette question, pour moi, elle est fondamentale. C'est, jusqu'ici, on a toujours eu une droite qui était quasiment bonapartiste. C'était la culture du chef, on respectait le chef. Or, avec les primaires, je pense que la donne va changer.
Le piège est à double sens dans ces primaires. Bien sûr, de la part d'Alain Juppé, François Fillon, etc., la pression exercée sur les primaires, c'est une sorte de défi à Nicolas Sarkozy sur le thème « En gros, tu es capable d'avoir les militants avec toi, mais l'électorat plus large, tu n'es pas sûr de l'avoir. » Mais inversement, il n'est pas non plus totalement impensable qu'auprès de ce même électorat, Nicolas Sarkozy soit majoritaire. On dit qu'il a fait une campagne à droite, mais l'électorat dans son ensemble, sur beaucoup de sujets, et c'est vrai d'ailleurs tous les partis, c'est plutôt durci, radicalisé. Et on voit bien comment progressivement Nicolas Sarkozy est en train de donner des gages à tous les autres, notamment à Juppé sur les primaires. Ouvertes, oui, elles seront ouvertes. Au centre, oui, on pourra dire qu'on adhère aux valeurs de la droite et du centre. Bon, il dit, mais très bien, vous les voulez aux primaires, vous les aurez, mais je mets une simple condition, et qui va de soi, c'est que vous respectiez ensuite le résultat de la primaire. Et si Nicolas Sarkozy sort vainqueur de la primaire, eh ben, pour le coup, Alain Juppé et François Fillon auront du mal à dire « on voulait une primaire pour emmerder Sarkozy » et dire « mais on refuse sa désignation si c'est lui ».
Oui, il va se rallier à la primaire, mais ce n'était pas son choix de départ.
Ah, ça, voilà,
on
clair,
peut dire
oui.
ça ensemble. Oui, oui. C'est-à-dire que si jamais il avait été absolument convaincu par la primaire, y compris dans sa fausse retraite, oui, il aurait fait le choix d'attendre 2015 et de venir à la primaire. Là, il est venu par le parti, parce qu'il pensait que dans le schéma de la démocratie militante bonapartiste, etc., il allait tout rafler. C'est raté. Donc maintenant, il va être obligé, effectivement, de jouer le jeu de la primaire, sachant qu'il y aura quand même un gros débat dès la semaine prochaine sur la question de savoir quand est-ce qu'on s'y met à organiser cette primaire. Juppé, Fillon et les autres vont dire c'est tellement lourd d'organiser une élection avec 3 millions d'électeurs qu'il faut s'y mettre dès maintenant.
Il faut quoi, un an pour organiser une primaire,
il faut une bonne, les socialistes ont mis un an et donc il faut une bonne année. Et lui dit et répète sans cesse, on a le temps de voir, on a 22 mois, donc maintenant on fait le parti, on fait le programme, bref, je m'installe comme le chef incontestable et après on fait la primaire. Donc la bagarre va être là.
Oui, tout à fait.
Alors, la récente affaire qu'on a commencé à aborder, Alain Fouet, la récente affaire Jouyer Fillon, donc on rappelle l'information rapportée dans le livre de Gérard Davé, Fabrice Lhomme, Sarko s'est tué. Voilà, François Fillon aurait demandé à Jouyer, à Jean-Pierre Jouyer, secrétaire général de l'Élysée, une intervention pour accélérer les procédures judiciaires contre Sarkozy. Est-ce que cette affaire Jouyer Fillon a bénéficié tant que cela à Nicolas Sarkozy ? Il passe pour une victime, c'est un rôle qu'il aime bien. Est-ce que ça lui a bénéficié, vous pensez, Nathalie Chuc ?
Je pense que dans son propre camp, ça l'a un peu victimisé. Ça a apporté de l'eau au moulin de ce qu'il dit régulièrement. Regardez, je suis la victime des affaires. Tout le monde veut, on veut m'abattre. Voilà, c'est ce qu'il dit tout le temps. Après, très honnêtement, est-ce que les Français, d'une manière générale, y ont compris quelque chose ? Parce que c'est tellement embrouillé. Je ne suis pas sûre que ça va jouer. Et très honnêtement, s'il y a une primaire donc en 2016 et une présidentielle en 2017, je ne suis pas sûre que les gens s'en souviendront.
Oui, le déjeuner... Jouyer Fillon sera bien oublié. En tout cas, Fabrice Lorvaux, cette affaire pose la question de l'avenir du OFF et du secret des sources. Et ça nous intéresse drôlement.
Oui, parce que ce qui est probable, c'est que les citoyens n'ont peut-être pas déchiffré au niveau politique, mais ce qu'ils vont retenir, reste à savoir pendant combien de temps, c'est que le secret des sources, ou lorsqu'on se confie à un journaliste, bah, c'est pas aussi solide que ça. Hein. Il est quand même si l'affaire est compliquée, il ne semble pas contestable que M. Jouyer ait tenu ses paroles. Alors, moi, je dirais pas off, mais sous le bénéfice du secret des sources, puisque le off, c'est quand je dis quelque chose et je ne veux pas que ça soit publié et que je sois cité, tandis que là, je pense qu'il voulait que ça soit publié, mais il ne voulait pas être cité. Hein. Et la difficulté, c'est que effectivement, même si les journalistes ne l'ont pas cité dans le livre, dès lors que Monsieur Fillon a protesté et que leurs paroles ont été remises en cause, eh bien, pour se justifier, ils ont balancé leurs sources. Ça pose une double question. Est-ce qu'on peut balancer sa source et est-ce qu'on peut surtout aussi le faire dans les médias ? Alors, un journaliste, lorsqu'il est attaqué en diffamation, a le droit de se défendre. Et pour se défendre, il bénéficie de l'exception de vérité et de l'exception de bonne foi. L'exception de vérité, c'est pouvoir faire la preuve de la vérité des faits qu'il affirme. Mais là, pour faire cette preuve-là, donc, il faut sacrifier la source. Il y avait aussi une autre option qui était celle de faire la preuve de sa bonne foi en disant qu'on intervenait sur un sujet d'intérêt général, qu'on l'a fait sans animosité, qu'on a fait une enquête sérieuse et qu'on avait de nombreuses sources. Ce n'est pas d'abord l'option qui a été suivie. Mais ce qui est peut-être le plus choquant, c'est que ce sacrifice, il a été fait dans les médias. Parce que si l'on revendique le bénéfice de l'exception de vérité, eh bien, il y a une procédure qui est prévue et on doit le faire devant les tribunaux. Et on ne le fait pas dans un journal, deux jours après avoir été mis en cause. Et du reste, c'est ce qu'ont rappelé les tribunaux. Lorsque Fillon a essayé d'obtenir en référé les bandes, eh bien, le juge a répondu « Tout ça relève du droit de la presse, c'est une procédure d'ordre public, ça rentre dans l'exception de preuve et en conséquence, je ne peux pas vous donner ces bandes. » Voilà. Donc, a priori, donc on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il devait le faire. Par contre, ce qui semble manifeste, c'est qu'il ne devait pas le faire dans les médias. Et reste à savoir les dommages collatéraux que ça va poser dans l'esprit du citoyen qui probablement pensait que lorsqu'on donne une information importante à un journaliste, on était protégé. Preuve que non.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Alors à l'étranger, de quoi a-t-on parlé cette semaine et notamment en Allemagne où nous retrouvons notre correspondant à Berlin, Cyril Sauvageau. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors Cyril, j'ai pas l'impression que la presse allemande ait beaucoup parlé cette semaine de l'UMP et de Nicolas Sarkozy.
J'ai eu beau chercher, en tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. On peut pas dire que l'élection à l'UMP déchaîne les passions dans la presse allemande. A signalé tout de même un bon papier de la Frankfurter Allgemeine Zeitung sous ce titre, Le monde merveilleux de l'UMP. Un peu de pédagogie à l'usage du lectorat allemand pour expliquer l'enjeu du scrutin. Nicolas Sarkozy en Goliath, Bruno Le Maire en David. La seule question qui vaille dans ce vote, explique la correspondante de la FATS, Michaela Wiegel, c'est de savoir si Sarkozy aura droit ou non à une deuxième chance. Mais jamais l'ancien président a dû autant combattre pour une élection, estime le journal de Francfort, qui énumère les poursuites judiciaires en cours et qui rappelle également l'épisode burlesque qui avait entouré à l'UMP le duel Fillon-Copé en 2012. Bref, un monde merveilleux. On se dit finalement que le titre est plutôt bien choisi.
Alors en revanche, Cyril, le rapport des économistes Pisani-Ferry-Enderlein a été beaucoup plus commenté chez vous.
Alors déjà, tout a commencé dans la presse allemande, hein, dès dimanche avec ce papier du Spiegel qui a fait beaucoup de bruit. L'hebdomadaire aurait eu accès au rapport avant tout le monde, d'où ces révélations en avant-première, gel des salaires, assouplissement des 35 heures en France, deux fois plus d'investissements que prévu en Allemagne, des mesures choc. Bizarrement, le rapport rendu public jeudi est beaucoup plus mesuré. Alors deux solutions, soit le Spiegel a tout inventé, ce qui n'est pas vraiment le genre de la maison, soit les ministres sont repassés derrière tout ça pour corriger le rapport. C'est plus probable et plusieurs journaux allemands l'ont aussi remarqué. Malgré tout, la presse voit un symbole dans la présentation de ce rapport par Emmanuel Macron et son homologue Sigmar Gabriel. Abrité derrière les recommandations des deux économistes, écrit le journal berlinois Der Tagesspiegel, les deux ministres font passer un message subliminal dans leurs pays respectifs. D'un côté, Macron prépare l'opinion à une possible réforme des 35 heures et de l'autre, Gabriel, le vice-chancelier SPD, lance des piques sans en avoir l'air au ministre des Finances d'Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, le tenant de l'orthodoxie budgétaire qui vient de faire voter un budget sans déficit pour la première fois depuis près de 50 ans.
Alors Cyril, il paraît qu'on s'inquiète à Berlin. Est-ce que Berlin sera toujours Berlin ?
Tout ça, c'est la faute d'un journal français, figurez-vous.
Allons
les
bon.
Oui, les Inrecuptibles. Un papier est paru cette semaine qui affirme que Hambourg est en train de détrôner Berlin comme la ville la plus cool d'Allemagne. Le quotidien populaire Berliner Zeitung contre-attaque et démonte un par un les arguments des Inrocs. Berlin serait devenu trop cher, trop touristique, trop chic. Autant de qualificatifs que l'on peut tout aussi bien appliquer à Hambourg, rétorque le journal. Le Berlin bashing n'est pas nouveau. Ces derniers temps, plusieurs articles dans Rolling Stone notamment ont dit la même chose. Berlin, c'est fini. Il faut partir à Varsovie, Cracovie, Leipzig, Vilnius et bien d'autres. Mais la capitale allemande reste le seul endroit en Allemagne où les jeunes peuvent vraiment faire l'expérience de la liberté. Liberté toujours, conclut le Berliner Zeitung en français dans le texte.
Cyril Sauvageau, merci, correspondant de Radio France à Berlin. Le clin d'œil de Yacine Bouzard, un clin d'œil rempli de larmes aujourd'hui. Un hommage à notre ami Didier Sudre, technicien de reportage mort brutalement mardi dernier. Ses amis Bernard Quentin, Étienne Leroy, Ibrahim Seliem lui rendent hommage.
C'était quelqu'un de pas commode, il était exigeant. Exigeant vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis des autres, beaucoup.
Il n'aimait pas que les autres aient des faiblesses et des défaillances. Il aimait bien avoir avec lui des gens performants et compétents.
Perfectionniste.
Perfectionniste à fond.
Étienne ?
Moi, je l'ai connu en 83 sur Inter, où moi j'étais sur Inter et lui, il était justement à la brigade, comme vient de dire Bernard. Bah, j'ai rencontré en studio quand il venait remplacer des techniciens, soit malades, soit en vacances. Et en fait, c'était effectivement quelqu'un d'entier, je dirais. C'est pas un tiède, Didier, c'est quelqu'un qui est entier, qui aime bien aussi, d'ailleurs, comme sur les terrains de rugby qu'il aimait beaucoup, avoir, pas de la confrontation physique, on va pas dire ça, mais quelque chose du répondant en face de lui et tout. Et il aimait bien, lui, qui était particulièrement exigeant, méticuleux, presque maniaque, hein, au niveau de sa préparation de matériel.
Maladif, quelque part.
Parce que lui, il n'oubliait rien. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'était absolument nickel au niveau préparation matérielle et tout. D'ailleurs, c'est ça que les journalistes ou les gens qui travaillaient avec lui appréciaient, c'est qu'on était sûr de lui. Mais par contre, lui, il avait la même exigence, comme disait Bernard, envers les gens qui travaillaient avec lui. Lui, il donnait beaucoup, mais par contre, il fallait une certaine réciprocité. C'est-à-dire qu'en face, il fallait aussi donner. Sinon, ça n'allait pas.
Ibrahim, vous me disiez hier qu'il avait un lexique.
Oui, il a un lexique. Il avait, je ne sais pas si on appelle ça de la dyslexie ou... Il inversait les mots, par exemple, Micmac, il disait Mac-Mic. Pour l'huile pimentée à la pizza, bah, il disait l'huile pigmentée. Donc ça nous faisait beaucoup rire. Et puis, il nous avait sorti une belle phrase. Comme il est précis et maniaque, une fois il avait dit « C'est pas pour me vanter, mais aujourd'hui il fait beau.
» Qu'est-ce que vous allez garder de lui, Bernard ?
Bah déjà un bon collègue, hein, faut pas se voiler la face, c'était quelqu'un que j'appréciais bien quand même, malgré tous ses travers, hein, parce qu'il en avait, hein, c'était pas facile à vivre le camarade. Et puis on avait en plus des passions communes, les motos, donc il avait en plus, entre guillemets, la même moto que moi, donc quand il était en panne, il venait me voir, enfin voilà quoi. C'était quelqu'un avec qui j'avais pas mal d'échanges quand même.
Ouais, pareil aussi, c'était quelqu'un qui avait des abords parfois pas toujours faciles, mais quand... Il vous estimait qu'on faisait partie du premier cercle et tout. C'était quelqu'un de très chaleureux aussi, très très humain et qui, Bernard peut le dire, de temps en temps le téléphone sonnait. Oui, pareil, hein. Le téléphone sonnait, c'était Didier. Mais c'était juste pour prendre des nouvelles parce qu'il savait qu'on était sur une opération et tout. Et voilà, c'était ça Didier aussi. Juste un petit coucou comme ça.
Le clin d'œil très humide et très triste de Yacine Bouzard en hommage à un autre ami, Didier Sudre, qui nous manque énormément et à qui je dédie cette émission. L'émission Le Secret des Sources touche à sa fin. Merci à tous, Sarkozy et les journalistes. Merci à nos invités, Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Nathalie Schuch, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France et co-auteur avec Frédéric Gerchel du livre très très instructif « Ça reste entre nous, 1-2 ans de confidence » de Nicolas Sarkozy. Et Alain Offray, journaliste au service politique de Libération, merci à vous trois. Nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés, merci à Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton pour les images. Et le web, notre chroniqueur connecté, est dans les coulisses de l'émission Les Indispensables. Vincent Abouchard et Mathias Mégy pour la préparation et la réalisation du secret, avec aux manettes aujourd'hui Léa Le Foll. Grand merci également à Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques à l'occasion du Salon du Livre de Radio France. Alain Finkielkraut reçoit Kamel Daoud et Alain Vircandelet pour parler de L'étranger revisité d'Albert Camus. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, à la semaine prochaine.
Ça fait partie des figures obligées des meetings de Sarkozy, hein, que de dire qu'il a le système contre lui. Moi, mes contacts dans son entourage me disent ça très régulièrement au téléphone. Ils me disent « c'est pas la peine de te parler, de toute façon, puisque au final, c'est toujours négatif, etc. » Et le système est contre nous.
Il s'est dit à un moment, si je veux revenir, eh ben, il faut que j'entretienne, entre guillemets, mon petit cheptel. C'est-à-dire les journalistes qui m'ont suivi pendant des années, que je connais, pas forcément que j'apprécie, qui m'ont fait des vacheries aussi, mais c'est eux qui sont accrédités sur la droite, donc je vais continuer à les voir. J'entretiens mon réseau, y compris journalistique.
Le Figaro n'est pas plus sarkozyste que Le Monde n'est hollandolâtre en ce moment. Je pense que c'est plus compliqué que ça.